Singapour avec 1,5% à la hausse. Enfin, je vous rappelle que le CAC 40, lui, avance d'un timide 0,1% à 4400 points. C'était Guillaume Lillery d'Investir pour RFI.
Et c'est la fin de ce journal. Il est 10h10 à Paris. Je vous laisse en compagnie de Juan Gomez pour Appel sur l'actualité.
Merci Pauline Glaise. Prochain journal dans 20 minutes.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, RFI vous donnera la parole pour parler de l'insurrection populaire d'octobre 2014 au Burkina Faso. C'était il y a 2 ans. Une trentaine de personnes à l'époque avaient été tuées lors de ces manifestations qui, rappelez-vous, avaient entraîné la chute de Blaise Compaoré qui voulait coûte que coûte se maintenir au pouvoir en modifiant la constitution. Récemment, la gendarmerie a entendu 16 ministres de l'époque. Tous sont ressortis libres, tous à l'exception de Luc Adolphe Thiaw, le dernier chef du gouvernement de Blaise Compaoré. Il a été arrêté et inculpé d'assassinat. Plusieurs organisations de la société civile attendent désormais un procès, en tout cas au sein de l'ancien parti présidentiel. Certains considèrent Luc Adolphe Thiaw comme un prisonnier politique. Vos réactions évidemment nous intéressent. Que vous inspire cette arrestation? Connaîtra-t-on d'ailleurs un jour la vérité sur la répression de ces manifestations d'il y a 2 ans? Vous nous rejoignez 33 9 693 693 70 et vous continuez évidemment à poster vos réactions, vos témoignages sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, vous le savez, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité, vos questions sur les sujets que vous entendez dans nos différents journaux. Moussa nous appelle de Nouakchott. Bonjour Moussa.
Bonjour Juan.
Vous êtes en Mauritanie et vous avez des questions concernant l'alliance militaire entre les États-Unis et Israël.
Oui, précisément, j'avais écouté la fin de la semaine passée une information passée sur RFI, comme quoi le gouvernement américain s'apprête à donner à Israël 38 milliards de dollars étalés sur 10 ans. 38 milliards, ça fait quand même beaucoup d'argent. Alors, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est comment un tel montant a-t-il pu passer, alors que l'on sait que les relations entre les deux exécutifs, particulièrement Obama et Netanyahu, sont exécrables. Et ensuite, à quoi ce montant-là sera utilisé?
Bonne question. 38 milliards de dollars sur 10 ans, il s'agit du soutien financier le plus important de l'histoire des États-Unis versé à l'armée israélienne. Toufik Ben Aïchouch, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service international d'RFI. Moussa a raison de dire que les relations sont glaciales entre Barack Obama et Benjamin Netanyahu. D'abord, un mot sur cette somme record, 38 milliards de dollars. À quoi vont-ils servir?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, les États-Unis donnaient à Israël l'équivalent de 3 milliards de dollars chaque année. À ce montant, 3 milliards de dollars, s'ajoutaient toujours quelques millions de dollars en plus pour le programme militaire israélien. Ce qui s'est passé, c'est que cet accord intègre toutes ces demandes. Donc, 3 milliards de dollars sur 10 ans, ça fait 30 millions de dollars. Et les 8 milliards de dollars, si vous voulez, c'était la rallonge qu'accordaient les États-Unis chaque année à Israël pour son industrie de la défense.
Donc là, l'idée, c'est nous vous donnons plus, mais il n'y aura plus de rallonge.
Alors voilà, exactement. C'est un document qui a été donc signé et qui engage Israël à ne plus demander à chaque fois des rallonges chaque année. Donc les détracteurs de Netanyahou, le premier ministre israélien, reprochent à ce dernier donc d'avoir eu les mains liées en quelque sorte et de ne pas pouvoir ajouter des demandes à chaque année. L'autre critique, c'est que avec l'érosion monétaire, s'engager sur 10 ans, eh bien 38 milliards aujourd'hui n'auront rien à voir, enfin j'exagère.
Ou un peu moins, effectivement. En valeur, effectivement, le dollar risque peut-être de chuter ou de baisser, oui.
Donc voilà pour les critiques sur cet accord. Alors, pour répondre à la question de notre auditeur, les relations entre Obama et Netanyahou ont été exécrables, notamment le point d'orgue de ces relations tumultueuses. Ça a été qu'entre Benjamin Netanyahou a fait un discours devant les représentants et les élus américains où il critiquait la politique de Obama concernant notamment l'accord sur le nucléaire iranien. Ouais. Israël reprochait à Obama de tout céder et de permettre à l'Iran de ressortir de la boîte dans laquelle elle était enfermée dans la région et de jouer un rôle régional plus important. Donc Obama, si vous voulez, en concluant cet accord, eh bien empêche l'État d'Israël de demander chaque année un peu plus, puisque maintenant cette demande l'enferme, si vous voulez, et en même temps dit, vous voyez, c'est vrai que j'ai des relations orageuses avec Benjamin Netanyahou, mais je ne hais pas Israël pour autant. Ouais, je suis toujours un ami d'Israël.
D'ailleurs, Barack Obama a été très clair au moment de l'annonce de cette fameuse enveloppe. L'engagement des États-Unis pour la sécurité d'Israël est indéniable, inébranlable.
Oui, c'est une constante, pratiquement. Pourquoi ? D'abord par conviction, évidemment. Israël est un vrai allié dans la région, un vrai allié de Washington, pour multiples raisons. Mais aussi, vous savez, il y a un lobby très important israélien aux États-Unis qui s'appelle l'AIPAC. Et l'AIPAC est vraiment faiseur de roi lorsque, notamment, il faut renouveler le Congrès ou le Sénat lorsqu'ils font organiser des élections pour élire, pour aller très vite, la moitié, un tiers du Sénat. Mmh. L'AIPAC peut mettre tous ses moyens à disposition du candidat américain qu'elle aura choisi, qui lui conviendra. Et donc, c'est un atout non négligeable. Là, avec cet accord, eh bien, ce jeu, si vous voulez, de contraindre le pouvoir exécutif américain à lâcher encore plus de lest en faveur d'Israël, il est réduit.
Moussa, on a répondu à vos questions.
Oui, juste peut-être une précision. Est-ce que dans le cadre d'alternance aux États-Unis, est-ce que les gouvernements suivants seront obligés de gérer cette contrainte à Israël de ne pas demander plus, ou est-ce qu'ils peuvent ouvrir les vannes à nouveau?
Vous avez raison, c'est une vraie question. En fait, les détracteurs, je l'ai dit, de Benjamin Netanyahou pour cet accord disent, voilà, on est enfermé, on peut pas demander des rallonges. Mais il y a d'autres hauts responsables de l'état-major israélien qui ont écrit dans la presse que, en fait, ce document ne nous engage à rien. C'est vrai que timidement, on dit, on s'engage à pas demander plus, mais rien ne nous empêchera, le moment venu, de demander plus. Notamment, lorsqu'il s'agira de perfectionner des systèmes militaires ou la recherche sur les drones et sur les missiles, là, Israël va encore probablement demander des rallonges et va les obtenir.
Merci Toufik Ben Aïchouch.
Je vous en prie.
D'être venu répondre à Moussa qui nous appelait de Nouakchott en Mauritanie. 10h17 à Paris, vos questions à la rédaction. On va s'intéresser maintenant aux îles Malouines, ces îles qui sont situées au large des côtes de l'extrême sud de l'Argentine. Vous savez que l'Argentine et la Grande-Bretagne se disputent depuis plus d'une centaine d'années la souveraineté de ces îles. Pierre, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour et vraiment merci de m'accueillir aujourd'hui.
Écoutez, on est ravis, vous nous appelez, RFI vous donne la parole, vous êtes au Gabon, on vous écoute.
Oui Juan, je voulais savoir, l'Argentine et le Royaume-Uni ont annoncé une coopération au sujet des Malouines après leur guerre de 1982. Je voudrais donc savoir, primo, cette coopération signifie-t-elle qu'il n'y a plus de conflit entre l'Argentine et le Royaume-Uni? Deuxièmement, en quoi consiste réellement cette coopération entre Londres et Buenos Aires?
Oui, une coopération inédite entre le Royaume-Uni et l'Argentine. Dario Rodriguez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'Argentine, professeur à Sciences Politiques, Sciences Po Poitiers et à l'Institut d'études politiques de Paris. 34 ans après la guerre des Malouines, les deux pays ont décidé donc de coopérer ensemble. Je donnais tout à l'heure un petit repère géographique. C'est vrai que tout le monde n'a pas forcément la situation géographique des Malouines. En tout cas, c'est vrai que ce petit archipel compte plusieurs centaines d'îles. Il y a au maximum 3000 habitants et ces îles ont toujours été convoitées par l'Argentine et la Grande-Bretagne. Ça signifie quoi? Qu'on a envie aujourd'hui de travailler ensemble?
Ça signifie d'abord que le gouvernement de Macri, en effet, il a décidé de mener une nouvelle politique qui marque en effet un changement vis-à-vis de la politique menée par le kirchnerisme, c'est-à-dire une politique plus fondée sur l'ouverture, la négociation, les dialogues et la coopération. Même si pour l'instant, il faut dire aussi, on sait pas trop sur vraiment les contenus de cette coopération. Pour l'instant, en effet, c'est qu'on a pu lire, c'est que en effet ça comprenne pour l'instant des accords concernant en fait l'exploitation du pétrole et des accords concernant notamment en plus l'activité de la pêche dans la zone maritime, même aussi en considérant aussi une autre chose qui est assez importante, la possibilité des vols directs entre les îles et les continents. Mais il faut dire aussi que pour l'instant en effet on ne sait pas trop exactement exactement qu'est-ce qu'ils sont signés, s'ils sont signés quelque chose, Malcora et justement Duncan, là, les vice-chanceliers britanniques. Donc, pour l'instant, en effet, c'est plutôt l'incertitude qui règne, on peut dire, on ne sait pas trop.
En tout cas, ce qui est sûr, Dario Rodriguez, c'est qu'on assiste tout de même à un réchauffement des relations, mais malgré ce réchauffement, j'imagine que Buenos Aires continue encore et toujours de revendiquer les Malouines.
Absolument, c'est-à-dire que vous savez bien, en fait, la demande concernant la souveraineté, il est inscrit dans la Constitution nationale, et en effet, c'est qu'on craint déjà une bonne partie, même des députés du qui appuient aujourd'hui le gouvernement, les fronts Cambiemos, ils ont fait aussi des déclarations contre justement cette initiative du gouvernement, tenant compte que justement la demande de souveraineté, il a été un peu, on peut dire, mise entre parenthèses, en état établissant justement un lien aussi avec ce qui a été la politique menée par le ménémisme pendant les années 90, ce qui notamment inquiète une bonne partie de la classe politique argentine.
Ouais, sans rentrer dans trop de détails, Londres ne veut surtout pas lâcher l'archipel des Malouines. On précise que sur place, il y a quand même énormément de ressources naturelles. Vous parliez tout à l'heure des hydrocarbures, des poissons. Effectivement, il y a énormément d'enjeux sur place. On va suivre ça dans les prochaines semaines. Merci Dario Rodriguez d'avoir été avec nous, spécialiste de l'Argentine et professeur à Sciences Po Poitiers. 10h22, vos questions à la rédaction. On va dans un instant s'intéresser au général Haftar. On vous en parle sur l'antenne des RFI. Ces troupes, vous le savez, se sont emparées récemment des principaux terminaux pétroliers en Libye. Mais d'abord, une question sur l'ex-premier ministre de la transition au Burkina Faso. Bonjour, shérif.
Bonjour, Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous nous appelez de Côte d'Ivoire et vous avez donc des questions sur le général Isaac Zida.
Exact. En effet, j'ai appris la justice burkinabé a livré un mandat d'arrêt à l'encontre du général Isaac Zida. Et je voudrais savoir s'il y a un accord d'extradition entre le Burkina et le Canada où réside le général Zida. Sinon, comment la justice ferait-elle pour faire amener le général Zida au Burkina? En cas de refus d'obtempérer, quelles sanctions risquent-elles?
Ouais. Alors, c'est vrai que le général Isaac Zida est dans le collimateur de la justice burkinabé. Le président Roch Marc Christian Kabore a ordonné une procédure contre lui pour désertion en temps de paix. Il faut savoir que l'ex-premier ministre a quitté le Burkina Faso au mois de janvier. Il s'est réfugié au Canada et visiblement, il n'a pas l'intention de revenir au Burkina Faso. Bonjour Yaya Boudani.
Bonjour Juan, bonjour shérif.
Vous êtes le correspondant des RFI à Ouagadougou. Alors, le général Zida encourt désormais un probable mandat d'arrêt international. Si c'est le cas, Yaya Boudani, est-ce que le Canada acceptera de l'extrader au Burkina Faso?
Bon, il faut savoir qu'il n'existe pas de convention entre le Burkina Faso et le Canada en matière d'extradition. Mais il existe une convention des Nations Unies qui s'appelle Convention de New York et le Burkina pourrait se baser sur cette convention pour demander l'extradition du général Yacouba Isaac Zida. En dehors de cette procédure exclusivement militaire contre lui en ce moment, le général Zida pourrait être aussi bientôt acculé par d'autres ennuis judiciaires. Le premier, c'est par rapport à sa gestion durant la transition. Plusieurs enquêtes lui reprochent une malgouvernance durant les 13 mois passés à la tête de l'État. Le deuxième, c'est lorsque M. Zida s'est autoproclamé président du Faso, puis après la démission de Compaoré. Il y a eu des contestations liées à cette proclamation. Des manifestants ont été tués, notamment à la télévision nationale. Il pourrait donc être poursuivi devant la Haute Cour de justice pour cette tuerie des 2 et 3 novembre, puisqu'il était à la tête de l'État en ce moment. Enfin, le troisième dossier pénal qui le guette et dont la procédure semble plus avancée, c'est son rôle dans les tueries liées à l'insurrection des 30 et 31 octobre, une trentaine de personnes ont trouvé la mort. Alors, à ce niveau, le procureur du Faso est très clair, c'est le général Zida qui était encore un lieutenant-colonel au moment des faits, et en tant que numéro 2 de l'ancienne garde présidentielle de Blaise Compaoré, qui a dirigé les opérations sur le terrain au niveau de l'ex-régime de sécurité présidentielle durant les manifestations contre la modification de la Constitution. Alors, s'il est inculpé pour ses morts, la procureure Maïga Sérémé est catégorique, un mandat d'arrêt sera émis contre lui, il ne se présente pas devant le juge d'instruction de lui-même.
Oui, pour l'instant, il n'a répondu à aucune des convocations des enquêteurs et des juges d'instruction. Visiblement, il n'a pas l'intention de coopérer avec la justice du Burkina Faso. Vous parliez à l'instant des manifestations d'octobre 2014, manifestations violemment réprimées. Ce sera justement le débat du jour. Nous vous donnerons la parole juste après le journal, dans un quart d'heure maintenant. Connaîtra-t-on un jour la vérité sur ces répressions? Avant de nous quitter, Yaya Boudani, Chérif nous demandait quelles sanctions encourt le général Zida.
Alors, outre la radiation du tableau d'avancement, le général Yacouba Isaac Zida qui est également passible devant le tribunal militaire pour infraction au cours militaire risque l'admission à retraite d'office, une radiation avec versement de ses droits légaux ou encore une mise en non-activité par retrait ou suspension d'emploi. Ce sont là les sanctions prévues par le règlement des disciplines générales au niveau de l'armée.
Merci Yaya Boudani en direct de Ouagadougou. Bonne journée, Chérif. Hassni Abidi nous rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Malheureusement, on ne peut plus rappeler Archeduc qui nous avait contacté de Djamena. Le réseau téléphone est trop mauvais pour le passer à l'antenne. Il avait des questions sur le général Haftar qui a été reçu il y a quelques jours par le président tchadien Idriss Déby à Djamena. Général dissident à qui on déroule le tapis rouge à Djamena. Qu'est-il allé faire sur place exactement?
Bon, c'est une bonne question. Le général Haftar, il n'est pas en terre inconnue au Tchad. C'est là qu'il a été arrêté par les forces tchadiennes, rappelez-vous, donc l'occupation de la guerre d'Aouzou, la bande d'Aouzou, et c'est là qu'il a été, en tout cas, pris en charge par les Américains, où il a vécu pendant 20 ans. Il est parti après cette réussite, cette performance, quand il a récupéré ce qu'on appelle le croissant pétrolier, c'est-à-dire les trois plus grands terminaux pétroliers. Il est allé aussi pour voir le président tchadien Idriss Déby. Il faut rappeler qu'il est devenu aujourd'hui président de l'Union africaine et Haftar a besoin d'une certaine acceptabilité, d'une certaine légitimité, parce qu'aujourd'hui il est toujours chef d'état-major autoproclamé, mais il n'est pas reconnu en tant que le premier chef de l'armée libyenne. Le deuxième élément, il y avait des rencontres importantes, une réunion en tout cas publique avec le président, et une autre réunion avec le chef d'état-major de l'armée égyptienne chargé de dossiers libyens. Et là, on a des informations comme quoi il y a des forces ou des troupes tchadiennes qui sont sur les frontières avec la Libye. Une autre réunion qui n'est pas confirmée, avec des militaires français, il ne faut pas oublier que l'opération Barkhane, l'état-major se trouve à N'Djamena, et on sait que des militaires français se trouvent sur le sol libyen, et surtout du côté de Khalifa Haftar dans ce qu'on appelle l'opération Dignité à l'est de Benghazi. Ceci ouais. explique cela.
Ouais. Le général Haftar a donc incontestablement des alliés dans la région, le Tchad, l'Égypte, qui le soutiennent, si je comprends bien, militairement.
Absolument. Il est soutenu par d'abord la proximité, hein, joue un rôle très important, un nombre très important des anciens de Colonel Kadhafi militaires, mais l'appareil sécuritaire se trouve aujourd'hui en Égypte, et en échange, il y a une aide militaire, c'est-à-dire matériel, soldats, experts, de la part de l'Égypte, mais aussi d'un autre pays de la région, et évidemment le Tchad, qui reste même proche de la position de Haftar, mais il n'a pas rompu aussi avec le gouvernement de l'Union nationale de M. Sarraj, puisque la frontière entre les deux pays est une frontière tout de même délicate pour les deux pays.
Merci beaucoup Hassni Abidi d'être venu ce matin dans l'émission nous éclairer davantage sur ce déplacement du général Haftar au Tchad. On dit même que c'était sa troisième visite depuis 2014, troisième visite connue. On suivra les pas de général Haftar qui a d'ailleurs, je le rappelle tout à l'heure, pris la possession du croissant pétrolier par où transite donc une grande partie du pétrole exporté de Libye. Merci à tous de votre fidélité. D'autres questions, la rédaction évidemment demain. D'ici là, vous n'hésitez pas, vous nous appelez. Le Standard vous attend. Toute l'équipe reste évidemment présente pour réceptionner vos questions. 33 9 693 693 70. Des questions que vous pouvez également nous envoyer sur les réseaux sociaux, sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone, car le principe de cette émission, vous le connaissez, c'est de vous donner la parole, c'est de vous entendre évidemment en direct tous les matins. À suivre le journal et on revient dans 10 10 minutes, nous parlerons de l'insurrection populaire d'octobre 2014 au Burkina Faso. C'était il y a 2 ans. L'enquête sur la répression de ces manifestations avance à tel point que le dernier chef du gouvernement de Blaise Compaoré a été arrêté. Il a été inculpé d'assassinat. Nous en parlerons ensemble durant la prochaine demi-heure.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.